La sauge, on peut la trouver même dans les régions qui ne sont pas en contact avec la mer. Et moi, je dirais plutôt centre-nord de l'Italie, plus que le sud. Moi, je viens du nord, donc forcément, j'ai baigné dedans, je l'ai toujours mangé, je l'adore, donc on l'avait dans le jardin et j'ai grandi avec.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. On vous a déjà parlé de coriandre, d'origan ou encore de persil. C'était notamment l'occasion d'expliquer pourquoi certains palais ne supportent pas la coriandre, non pas par insolence face à la meilleure des herbes aromatiques, oui je suis un peu partisane, mais en raison d'un fait génétique. C'était aussi l'occasion de parler de l'importance du persil dans la cuisine roumaine et du charme désuet du persil frisé dans la cuisine de brasserie française. C'était enfin l'occasion de faire honneur à l'origan, si souvent noyé dans les mélanges d'herbes de Provence ou tellement présent sur les pizzas et les olives vertes qu'on ne le voit même plus. Si vous avez manqué ces épisodes, n'hésitez pas à aller les écouter. Il s'agit du 58, du 70 et le numéro complémentaire, le 82. Et si on aime autant parler d'herbes aromatiques dans Bouffon, c'est parce qu'elles font partie de ces végétaux magiques qui permettent de sublimer une salade, infuser un beurre ou encore parfumer un bouillon. Les herbes aromatiques sont aussi de bons alliés pour la santé, car elles comportent des bienfaits tels que l'apport d'antioxydants. Alors bien sûr, on en consomme rarement en quantité suffisante pour remplir tous les besoins nutritionnels d'une journée, mais leur ajout régulier dans nos plats apporte à petite dose un vrai coup de pouce pour la santé. L'épisode que vous écoutez aujourd'hui rend hommage cette fois à la sauge. C'est une herbe indissociable pour moi des gnocchis maison, ces petits coussins dodus et dorés que j'aime tant manger avec du beurre de sauge. C'est aussi une plante pleine de vitamine K, qui joue un rôle important dans la formation des os. Cette plante aromatique originaire de la région méditerranéenne est reconnaissable à ses jolies feuilles duveteuses et leur couleur vert grisé. En Italie, on parle même de vert sauge pour décrire cette teinte particulière. Une autre manière de vérifier que c'est bien de la sauge qu'on a sous la main, c'est d'examiner la base de sa tige, facilement repérable car sa section est carrée. Pour parler de sauge, je me suis rendue chez Il Baccaro, un génial petit resto italien tenu par la chef Eleonora Zuliani à Paris, dans le 11e arrondissement. Celle qui a été archi dans une autre vie m'a égrené les multiples usages de la sauge. Je vous conseille donc d'écouter cet entretien avec un carnet de notes et un stylo dans le coin, tant les idées et astuces culinaires seront nombreuses. Pour commencer, j'ai demandé à Eleonora de me raconter un souvenir lié à la sauge.
Je me rappelle très bien, j'étais enfant, j'étais chez une copine dans son jardin, un après-midi d'été, et sa mère, à un moment donné, elle est arrivée avec un petit canapé de feuilles de sauge frites. Et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. C'était vraiment un délice, et depuis, je l'ai fait moi aussi. Ça, c'est le souvenir le plus sympa. Sinon, la sauge, c'est vrai que c'est un grand marqueur de la cuisine italienne, et ma grand-mère, elle l'utilisait pratiquement partout, dans tout ce qu'elle faisait à manger. Pas simplement ma grand-mère, hein, je veux dire, dans toute l'Italie, il y a plein de recettes qu'ils utilisent et c'est vraiment un aromate, une herbe qui est très présente et très, vraiment très caractéristique.
C'est une de mes herbes aromatiques préférées, je dois dire. Et parfois, je me dis, mais comment on peut, sur ces herbes-là, décrire vraiment le goût que ça a ? Parfois, c'est un goût tellement unique qu'on a l'impression que c'est difficile de retrouver des adjectifs pour pouvoir vraiment décrire cette sensation qu'on a en bouche quand on mange de la sauge. Toi, comment tu t'y prendrais ?
Alors, c'est vrai que c'est très difficile toujours de parler d'un goût, de le décrire. On peut utiliser des synonymes. On peut dire que la sauge est légèrement résineuse, mais il n'y a pas que ça. Il y a un côté un peu pharmaceutique. D'ailleurs, c'est une plante médicinale qui était très utilisée depuis toujours. Parfois, à certaines personnes, à ce côté un peu médicamenteux, ça gêne un peu. Il a un côté un peu floral aussi, avec celle un peu trop cuite, une petite amertume à la fin. Moi, j'ai un peu la camphre aussi, ça peut sentir. Je veux dire, c'est vraiment une palette assez riche, hein, qui est, par contre, vraiment très typique de cette plante.
Tu as dit que la sauge était vraiment typique de la cuisine italienne. Quels sont les plats dans lesquels on va en retrouver ?
Il y a les grands classiques, les saltimbocca par exemple, c'est une fine tranche de veau avec une tranche de jambon cru et une feuille de sauge par-dessus qui sont rissolées à la poêle. Moi, je les fais comme ça, je les rissole à la poêle, j'enlève les petites saltimbocca, après je mets une noisette de beurre et après un tout petit peu de vin blanc et après j'arrose les saltimbocca avec ça et un bon tour de poivre. Voilà, ça c'est un grand classique. Sinon, il y a aussi beurre et sauge, très très simple à faire. Il faut faire fondre la sauge dans du beurre et avec ça, on peut assaisonner et des pâtes, des gnocchis. Et c'est très important à savoir, l'essence, le parfum de la sauge, il est soluble dans la matière grasse. Donc, quand on fait des tisanes, on la fait bouillir et s'exprime pas, disons, complètement. Il faut vraiment, pour bien extraire son parfum, utiliser ou du beurre ou de l'huile.
Ah, donc c'est pour ça que la sauge se marie aussi bien avec le beurre. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un mariage parfait et que l'un et l'autre vont se renforcer. Surtout, le beurre fondu va devenir comme une espèce de petit coussin qui va accueillir et renforcer même tous les arômes de la sauge. J'aime particulièrement les gnocchis au beurre de sauge.
Tout à fait, pour ces raisons-là, parce que l'essence, le parfum de la sauge, il est soluble, il est transmis surtout par la matière grasse.
Alors j'en profite puisque je t'ai avec moi, comment on fait le meilleur beurre de sauge possible? Parce que moi je dois t'avouer que je fais ça un petit peu à l'improvisation, c'est-à-dire que je mets mon beurre, j'ajoute la sauge. Parfois, si le feu est trop fort, je vois qu'elle commence un peu à crépiter, elle commence un peu à frire, alors je le baisse pour pouvoir peut-être garder en fait la feuille entière, ne pas la laisser brûler et qu'elle vraiment dégage plus ses arômes. Mais est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il y a une manière plus qu'une autre de faire son beurre de sauge?
Non, franchement, moi je le fais toujours comme ça. Les feuilles, je les coupe au couteau, les plus petites, je les laisse entières. Si c'est coupé, l'arôme il sort encore plus. Et voilà, il faut juste ne pas trop la faire brûler parce que sinon ça devient amer. Mais on peut la frire, la sauge aussi. La sauge frite au salviade, comme on dit dans ma région, les Frioles. Par contre, dans ces cas-là, quand on fait la sauge frite, c'est préférable justement pour ne pas trop la cramer, la feuille de sauge, l'envelopper avec une espèce de pâte à tempura dans laquelle il y a une part de farine et deux parts d'eau. Moi, par exemple, je fais un mélange de farine 00, c'est une farine italienne, et j'utilise aussi de la farine de polenta en part égale. Et ça donne un peu plus de croustillant. Donc, et l'eau, en principe, on utilise ou de l'eau pétillante ou sinon de la bière. Un tout petit peu de sel et on immerge les feuilles de sauge avec leur pédoncule dans cette pâte et après on fait la frire avec une huile qui soit pas trop chaude, disons 170, 180 maxi. Donc cette pâte, elle enveloppe la sauge et l'empêche qu'elle crame et ça lui donne un beau côté croustillant. C'est pour ça que moi j'utilise la farine de polenta, donc de la farine de maïs, parce que ça renforce ces côtés croustillants qu'il y a la pâte à tempura. Quand je la fais au restaurant, par exemple, je garde toujours mon bac dans le frigo. Je le sors vraiment au dernier moment et je refais à chaque fois la pâte pour chaque service parce qu'elle est meilleure minute. Je l'utilise pendant tous les services, mais d'un service à l'autre, il faut la refaire.
Farine 00, farine de polenta, l'eau gazeuse. Qu'est-ce qui va exactement dans ces trois ingrédients faire que c'est particulièrement croustillant à la fin?
Il y a encore des levures qui font qu'après, ça travaille pendant la cuisson. La farine de polenta, parce que ça donne ce côté croustillant. Et là, après, c'est le jeu de température qui est très, très important. Le fait que cet appareil, il doit être vraiment très, très froid. Il doit y avoir un choc thermique entre la feuille qui est mouillée dans cet appareil froid et la chaleur de l'huile dans laquelle on va l'immerger. Et j'aime bien avoir vraiment ce côté croustillant, très nuage.
C'est magique parce que donc la sauge, ça fonctionne à la fois donc dans le beurre de sauge, là on vient de le dire avec ses petits beignets, ça s'accompagne bien aussi du goût de viande comme celle du porc ou du veau, c'est l'exemple que tu donnais avec la saltimbanca et la volaille également.
On a fait l'exemple tout à l'heure avec le veau, ça marche bien avec la viande de porc aussi, en général avec les viandes blanches. Le porc, c'est considéré comme une viande blanche. Et les volailles, comme je disais tout à l'heure. Ou sinon, aussi avec les abats. Avec le foie, c'est une merveille. Il y a une recette qui vient de Toscane, dans laquelle on fait revenir deux fois des volailles avec pas mal d'oignons, de la sauge. Après, on rajoute des anchois et des capres. On la hache grossièrement. Elle la sert comme une petite sauce sur des petits croutons de pain grillé. C'est merveilleux. Ou sinon, le foie à la vénitienne, dans lequel on utilise du persil, mais on peut aussi utiliser de la sauge. Et c'est vraiment un bon mariage, vraiment un très, très bon mariage. Ou sinon avec du poisson aussi. Moi, je l'ai fait avec une sauce pour les pâtes à base de poulpe, de lentilles, sans sauce tomate parce que c'est un peu trop acide. À la fin, ça va couvrir peut-être un peu trop le goût de la sauge. Et je préfère qu'on sente le côté iodé du poulpe. Je réduis plutôt l'eau du poulpe et vraiment, c'est merveille. C'est une sauce blanche et donc avec le poulpe aussi, ça marche très bien. Ou sinon, ça marche super bien aussi avec certains légumes, avec la courge. On parlait tout à l'heure des gnocchis. Alors, c'est les gnocchis des patates, mais les gnocchis des courges sont très très bons aussi avec la sauge et les risottos aussi. Risotto, courge et sauge, c'est vraiment une merveille. Après, on peut mettre quelques noisettes par-dessus, mais ça, c'est un lien plutôt avec une courge qu'on utilise pas mal en Italie qui s'appelle Delica. C'est une courge qui a justement ses côtés un peu noisette, un peu sucré, mais une espèce de goût de caramel. Et c'est vraiment un mariage qui marche très 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 bien. C'est une courge dans laquelle on peut manger la peau. Donc, on peut la rôtir au four, par exemple, avec sa peau et manger tout. Et c'est surtout le goût. Le goût, il est vraiment très, très, très bon. La peau, elle est verte, hein, un peu avec quelques aspérités. C'est comme un petit marron plus, plus, plus. Ça ressemble, c'est un peu moins sucré. Il y a un peu plus ce côté de fruits secs, noisettes, vraiment très, très gourmand. Après, pour terminer un peu les associations heureuses, les haricots en Italie, c'est un autre grand classique parce qu'il faut savoir que la soja, c'est une plante qui aide à se déballonner. La soja, c'est traditionnellement associé aux haricots, soit dans les soupes. Là, par exemple, dans mon resto, j'ai fait un plat, une petite entrée que j'adore en ce moment. C'est des haricots borlotti, un haricot italien, qui sont cuits, après mixés en purée, et dans lesquels je mets pas mal de soja que j'ai fait revenir avec des oignons et un filet d'huile d'olive. Et je mixe les tout, j'ai fait une espèce de purée. Et cette purée-là, je l'utilise comme lit sur laquelle je vais poser du radicchio di Treviso, qui c'est un autre produit italien excellent, radicchio tardivo. Parce qu'il y a une différence entre le précoce et le tardivo. Le tardivo, c'est celui qui a les côtes assez croquantes, assez grosses, qui a déjà fait un passage dans une vasque dans le noir, dans laquelle il a poussé, sans photosynthèse, dans laquelle il a perdu un peu son amertume. C'est vraiment un savoir-faire italien qui est vraiment excellent et ça donne un produit vraiment d'excellence. Donc, pour revenir à ces petites entrées, crème des haricots avec la soja, deux belles tranches de radicchio di Treviso poêlées à l'huile d'olive et par-dessus, quelques tranches de lardo di colonnata et deux noisettes. Et c'est vraiment très, très, très bon.
Je sors de table pourtant, mais là, ce que tu racontes me fait saliver. Alors, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qui est que la sauge est une herbe très importante, très caractéristique de la cuisine italienne. Souvent, depuis la France, quand on pense, depuis la France et peut-être depuis d'autres pays, quand on pense à la cuisine italienne et aux herbes aromatiques, on pense peut-être plus rapidement au basilic. Est-ce que tu penses que la sauge, finalement, est aussi importante que le basilic dans la cuisine italienne, ou peut-être même plus?
Je dirais que c'est assez importante. Plus, je m'avance pas. Mais c'est vrai qu'après, c'est une question de climat. C'est vrai que le basilic, on le cultive dans les climats tempérés, plutôt au bord de la mer. Je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être quelque chose que je me suis mise moins dans la tête, mais voilà. Et la sauge, c'est dans le reste de l'Italie. Donc, la sauge, on peut la trouver même dans les régions qui sont pas en contact avec la mer. Et moi, je dirais plutôt centre-nord de l'Italie, plus que le sud. Moi, je viens du nord, donc forcément, j'ai baigné dedans. J'en ai toujours mangé. J'adore, donc on l'avait dans le jardin et j'ai grandi avec. On avait moins de basilic, par contre, parce qu'il faisait déjà plus froid et donc c'était plus difficile de le cultiver. Qui existe dans ma région, le Frioul, c'est une petite région qui est au nord-est de l'Italie. Et ça s'appelle pestata, c'est un mot en dialecte. C'est une préparation dans laquelle on utilise du lard qu'on fait mixer, dans laquelle on ajoute de la sauge, entre autres, et aussi du persil, des carottes, du céleri, plein d'épices douces. Ça peut être des graines de fenouil, selon l'envie qu'on a et les parfums qu'on veut donner à la préparation finale. Et du sel. Donc, on mixe tous ces aromates et on prépare une espèce de base qui peut être utilisée dans la cuisine. Cette préparation, elle est mise dans un boyau, comme un saucisson, et elle est faite affiner à la cave. Et ça fait une petite fermentation, tous les parfums ils se mélangent entre eux. Le gras, ça véhicule tous ces parfums. Et c'est une base qu'on peut utiliser, par exemple, pour faire une sauce pour les pâtes, on peut cuisiner des viandes. Et vraiment, ça met en valeur tous les parfums qu'on met dedans, et ça l'exalte, soit par le gras, soit par les sels. Et c'est vraiment sympa, ça s'appelle pestata.
Est-ce que tu peux également me parler d'un plat qui comporte de la sauge et que tu étais contente de servir ici à Il Baccaro?
J'étais assez fière du poulpe anti-sauge. Ça avait très bien marché. J'étais assez fière de cette recette, du dessert avec les abricots. Et sinon aussi de cette petite recette avec les radicchio di Treviso, avec les haricots. Je trouve qu'elle était très, très bien réussie. Disons que c'est les recettes que j'ai le plus appréciées et qui m'ont donné un bon retour de la part de mes clients.
Enfin, pour terminer, Léonora, pour sortir un peu du sujet de la sauge, je voudrais te poser une question que je pose à tous les invités de cette nouvelle saison de Bouffon. Que veut dire manger pour toi?
Une façon de manger, c'est de se voir en famille, quand on peut. Moi, ma famille, elle est en Italie, une partie de ma famille. Donc, Noël, les vacances, c'est des moments dans lesquels, les anniversaires, c'est des moments dans lesquels, justement, on se retrouve et c'est un moment de convivialité. Je dirais que voilà, il n'y a pas qu'une façon de manger, il y a plusieurs façons de manger selon le moment, selon la compagnie qu'on a. Et sinon, j'adore être invitée par mes amis à la maison, chez eux. Et des fois, ils se font un peu de scrupules parce qu'ils me disent « Ah, toi, t'as un restaurant !» Et voilà, je sais pas quoi faire. Moi, je suis complètement omnivore.
C'est drôle, je rebondis sur ce que tu dis, sur la frilosité de tes amis qui t'invitent parce qu'ils savent que tu es chef. Mais même moi, juste en animant un podcast qui parle de nourriture, souvent mes amis me disent « Ah, j'étais trop stressée en cuisine de te recevoir parce que voilà, j'avais peur de pas être à la hauteur. » Mais finalement, manger, c'est pas juste toujours faire des choses très très compliquées. Le plaisir de manger, c'est aussi de découvrir ce que l'autre a cuisiné pour nous, ce qu'il et elle ont pris comme temps concocter quelque chose, et ça passe par là aussi la générosité de partager un repas.
Exactement, c'est partager des bons moments, une bonne grillade. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour passer les bons temps?
Après cet enregistrement, Eleonora m'a parlé d'une autre utilisation de la sauge, cette fois côté sucré. À émietter sur des abricots frais coupés en oreillons, c'est apparemment un délice. Elle m'a également emmenée en cuisine pour me montrer sa fameuse barquette de pestata, cette base culinaire qu'elle prépare à l'avance et qui lui permet ensuite très rapidement de faire une base de sauce en service. Comme elle nous l'a dit dans l'interview, pour faire une pestata, il faut mixer du lard et l'ajouter à de la sauge, du persil, des carottes, du céleri, le tout émincé finement jusqu'à devenir une préparation facile à faire fondre dans la poêle. Merci à Eleonora Zuliani de m'avoir donné de son temps pour parler de sauge, et plus précisément de sauge officinale. Car en effet, il existe d'autres types de sauge, comme par exemple la sauge blanche qui pousse en Amérique du Nord, originellement dans le désert de Californie. Cette plante notamment bien connue des peuples natifs d'Amérique qui l'utilisaient lors de rites de purification. Cette sauge empaquetée comme de l'encens se présente sous forme d'un bâton de fumigation. Elle est également appréciée des sorcières des temps modernes, bien que sujet à un débat sur l'appropriation culturelle d'une culture dite amérindienne par des White Witches. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts, ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.